Pascal Lismonde présente Le bonheur selon Épicure. Aujourd'hui, le hasard mène le monde avec Marcel Conche, philosophe.
L'acquisition de la sagesse, qui est l'objet même de la philosophie d'Épicure, repose sur son interprétation de la nature. Une interprétation très audacieuse qui se fonde sur l'atomisme de Démocrite, mais pour mieux le dépasser. Épicure s'en explique longuement dans deux longues lettres, à Hérodote et à Pitoclès. Il faut signaler d'ailleurs que la plupart des écrits d'Épicure ayant été perdus, ces deux lettres, avec celle à Ménécée sur le bonheur, constituent l'essentiel de l'exposé de sa doctrine, à moins que l'on ne retrouve de nouveaux rouleaux dans les fouilles que l'on a reprises récemment à Herculanum. Mais alors, quelle est donc cette vision du monde que nous propose Épicure, Marcel Conche ?
En ce qui concerne l'épicurisme, du moins le système d'Épicure, il faut commencer par distinguer les deux notions de monde et d'univers. Le monde, c'est l'ensemble de tout ce que nous avons sous les yeux. Et le monde, pour Épicure, est réel incontestablement. C'est-à-dire qu'il n'y a, au sujet du monde, il n'y a pas cette interrogation problématique qui sera celle de Descartes. Pour lui, le monde est d'abord une évidence, c'est l'évidence primordiale, et si nous n'admettons pas cela, le problème de la philosophie disparaît. Parce que si la philosophie existe, c'est pour expliquer ce que nous avons sous les yeux.
C'est la première donnée sensible, en fait,
voilà,
le monde.
Voilà, la première donnée sensible, oui, puisque c'est justement la sensation qui est le critère du réel. Il s'agit donc d'expliquer qu'il y ait ce monde, et par monde, donc, il faut entendre la totalité du sensible, y compris les étoiles. Par conséquent, les galaxies de l'univers d'aujourd'hui rentrerait dans ce que Épicure appelle le cosmos, le monde.
Mais y compris aussi des univers infinis, en fait, dont nous n'avons pas nécessairement la vision, parce que Épicure admet aussi l'existence d'autres mondes possibles.
Oui, justement. Donc, le monde, c'est ce qui est à expliquer, et l'univers, c'est ce que nous devons poser spéculativement pour comprendre que ce monde est existé. Alors, par univers, il faut entendre la totalité des choses. Mais il faut comprendre que cette totalité n'est pas un tout structuré. Un organisme est une structure. Notre monde est structuré, et c'est la plus grande des structures. Mais l'univers est une somme infinie d'atomes et de vides. Alors, l'univers n'est pas sensible, n'est pas perçu, il est posé par la pensée pour permettre justement d'expliquer que ce monde est existé. Or, on ne peut expliquer l'existence de ce monde qu'en posant ce qui permet en même temps de montrer qu'il a dû en exister une infinité d'autres. Alors, ces innombrables autres mondes ne sont pas perçus, ne sont pas appréhendés par la sensibilité, et ne sont pas non plus appréhendés par la vision mentale, alors que les dieux, eux, sont perçus par la sensibilité mentale, mais il faut les admettre, parce que si ce n'était pas le cas, étant donné que nous avons posé dans l'univers infini une infinité d'atomes dans un vide infini, depuis un temps infini, qui se rencontrent et forment des amas et des ensembles, tout cela par l'effet du hasard, ce serait une chose absolument extraordinaire que dans cette infinité, dans cette immensité, il n'y ait eu justement qu'un seul monde. Parce qu'à ce moment-là, si c'était le cas, il faudrait admettre autre chose que le hasard, par exemple une providence, qui aurait fait en sorte que dans cette immensité, à cet endroit-là, un monde se soit créé.
C'est-à-dire qu'à la fois, rien ne naît de rien, en fait, mais en même temps, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas un dieu créateur, il n'y a pas d'origine du monde.
Il n'y a pas de dieu créateur parce que la notion de dieu n'est pas une notion explicative. Pour Épicure, si vous voulez expliquer ce monde que nous avons sous les yeux, avec la terre, le soleil, la lune, les étoiles, etc., en admettant un dieu créateur, à supposer que le monde soit différent, c'est-à-dire que la terre soit différente, qu'il n'y ait pas de montagne, par exemple, que la lune soit différente, qu'au lieu d'un certain nombre de planètes, il y en ait deux fois plus, eh bien, vous admettriez toujours l'existence du même Dieu créateur. Par conséquent, si vous admettez Dieu comme cause du monde, quel que soit le monde, c'est toujours la même cause. Donc, vous ne pouvez pas montrer dans la cause un détail qui permette de rendre compte du détail qu'il y a dans les faits. Par conséquent, la notion de Dieu n'est pas explicative. Et puis, la deuxième raison, c'est que Dieu, créateur, c'est un être spirituel. Or, le monde est matériel. Et nous ne percevons aucune intelligibilité de la relation de l'esprit à la matière. C'est pourquoi...
Oui, mais il pourrait y avoir une volonté organisatrice, ou plus exactement un ordre que l'on peut attribuer à une volonté organisatrice de la matière.
Oui, mais ici, les épicuriens ont un argument extrêmement subtil. Ils vous diront, ce Dieu organisateur fabriquerait, comme le démiurge de Platon, un monde. Mais d'où aurait-il tiré l'idée de monde, puisqu'il n'y en avait pas avant? Autrement dit, les épicuriens pensent que les idées de quoi que ce soit supposent que ce dont on a l'idée existe déjà. Et ce dieu organisateur, ce dieu démiurgique, d'où lui serait sortie la notion de monde? Et étant donné que ce serait un être spirituel, d'où aurait-il tiré l'idée de matière? Les épicuriens préfèrent une explication matérialiste, c'est-à-dire en admettant un désordre universel, d'où naît l'ordre. Parce que si vous admettez la combinatoire produit tout. C'est-à-dire qu'elle produit non seulement une multitude de combinaisons désordonnées, mais aussi des ensembles ordonnés. Puisqu'autrement, il faudrait une sorte de providence qui choisirait. Mais à partir du moment où il n'y a pas de choix, tout se produit. Et l'ordre, c'est un cas particulier du désordre.
Et de plus, il n'est jamais fixe.
Ah, l'ordre n'est jamais fixe, non, parce que si nous admettons que les atomes s'assemblant dans le vide infini d'innombrables façons différentes produisent des amas dont certains sont des nébuleuses qui n'ont pas de caractère structuré, et si nous admettons que malgré tout doivent se produire des ensembles structurés, c'est-à-dire des mondes, étant donné que ces mondes sont immergés dans un univers où il n'y a que des atomes et du vide, ces structures sont périssables, c'est-à-dire que les mondes ont un commencement, ils ont aussi une fin, et notre monde doit finir. D'après Lucrèce, ce monde existe depuis un temps ne doit pas être très long. Il est récent, et il ne doit pas durer, semble-t-il, très longtemps, d'après lui. Comment finira-t-il? Nous ne le savons pas. Il peut finir de différentes façons. En tout cas, il finira dans un immense écroulement général. Il y a déjà, dans l'infini, d'innombrables autres mondes, et il y en aura d'autres à l'infini.
Mais ce monde-là existe-t-il de toute éternité?
À l'univers, oui, pas le monde.
Donc il y a quand même eu, à un moment, une création du monde.
Pas une création, mais un rassemblement, c'est-à-dire une combinaison d'atomes qui ont formé un ensemble organique structuré. C'est-à-dire que rien ne naît de rien, donc il n'y a pas de création à proprement parler, vous voyez. C'est-à-dire que les atomes qui composent le monde sont éternels, à la différence des atomes de la physique moderne. Parce que la physique moderne admet que les atomes sont composés de protons, électrons, etc., mais les protons, les électrons ne sont pas éternels. Tandis que l'atome d'Épicure est éternel. Alors, naturellement, il y a toute une théorie de la forme des atomes et de la grandeur des atomes afin d'expliquer la diversité des choses sensibles. Alors, une différence avec Démocrite, c'est notamment celle-ci. C'est que Démocrite n'avait pas admis qu'un atome puisse avoir des parties. Parce que atome veut dire insécable, c'est-à-dire indivisible, en partie plus petite. Et pour Épicure, un atome est effectivement indivisible, en partie plus petite. Mais vous pouvez, dans l'atome, penser des parties plus petites, que vous pensez, mais qui ne sont pas séparables. si vous voulez, prenez un atome qui a la forme d'un trident. Alors, du fait que vous lui donnez la forme d'un trident, vous pensez trois parties. Vous le divisez en trois. Et c'est ce que Lucrèce appelle les minime partes, c'est-à-dire les trois parties. Alors, un atome peut être considéré comme un ensemble de parties, et alors plus il y a de parties, plus l'atome aura de grandeur, mais étant donné que le nombre des parties sera fini, le nombre des grandeurs possibles sera extrêmement grand, mais tout de même fini. Et le nombre des formes possibles, lui aussi, est extrêmement grand, mais fini. Tandis que le nombre des atomes de chaque forme est, lui, infini.
Vous parlez de Démocrite, Marcel Conche. La philosophie épicurienne, il faut quand même le souligner au départ, c'est effectivement une sorte d'avatar de la conception du monde telle qu'elle a été présentée par Démocrite, et même auparavant par certains présocratiques.
Il y a une grande différence entre Démocrite et Épicure, c'est que Démocrite était un mathématicien. C'est pourquoi il envisage théoriquement la multiplicité innombrable des mondes possibles. Tandis que l'Épicure ne veut admettre que ce qu'il faut admettre pour expliquer justement ce monde. Épicure n'est nullement un mathématicien, et il considère d'ailleurs qu'il n'est vraiment pas nécessaire pour le bonheur de s'adonner aux mathématiques.